Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Les carnets du soir vous proposent de me suivre comme pèlerin dans différents lieux à Rome, la ville éternelle. Je vous livre différentes pensées et réflexions. Suivez-moi dans cette réalité. Nous allons continuer et là nous arrivons devant un miroir. Il est grandiose, incliné dans l'église. Pourquoi ce miroir? Il y a une jeune fille qui est là, elle a revêtu une sorte d'écharpe parce que, je vous l'ai dit, déjà on n'entre pas dans les églises les épaules dénudées pour personne. Donc elle a une écharpe, elle est très bien et elle est devant le miroir. Je n'avance pas. Ensuite, elle va quitter. Je prends ma place et je regarde. Le miroir nous renvoie complètement dans les hauteurs, où on admire la fresque, cette peinture qui nous représente Ignace, en hauteur, c'est-à-dire dans les cieux. D'une certaine manière. C'est intéressant, cette histoire du miroir. Je pense que parfois nous devrions avoir en ce monde, dans les grandes cités, dans les grands pays, des miroirs comme cela, qui nous montrent les hauteurs. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les hauteurs? Le combat est aussi dans les hauteurs. Ce n'est pas toujours l'extase dans les hauteurs. Surtout en ce moment du monde où les guerres sont folles d'envie. Alors ce serait important d'avoir des grands miroirs comme cela dans les différents pays pour dire « Regardez, regardez ce qui se passe en hauteur à partir de la terre, mais regardez, regardez ce miroir. » Ensuite, nous arrivons à une chapelle qui s'appelle la chapelle dédiée à Saint Ignace. Et là, on nous raconte qu'il y a un procédé, et ça se fait une fois par jour, à telle heure, donc ce n'est pas l'heure où je suis là, une fois par jour, il y a comme un mouvement qu'on appelle le mouvement baroque. Alors, ce que je vois, c'est une immense toile qui représente Saint Ignace. C'est très beau. Mais par un mécanisme tout à fait particulier, la toile descend. Et au moment où elle descend, apparaît la statue d'Ignace dans la gloire, une statue dorée qui apparaît dans la gloire. Alors, c'est comme une attraction où on voit d'abord Ignace comme nous, en ce monde, et on le voit ensuite dans cette gloire où il est transfiguré. L'or représente la divinité, représente Dieu dans les œuvres. Je n'ai jamais vu ce mouvement ou cette attraction d'une certaine manière, mais il semble que ce soit très beau, la façon dont nous apercevons Ignace dans la gloire, pour la plus grande gloire de Dieu. C'est la devise des jésuites. Alors, on voit souvent des représentations d'Ignace dans la gloire. Par la suite, nous allons à une petite chapelle qui s'appelle la chapelle dédiée à Saint François d'Assise et où il y a une peinture du Sacré-Cœur. On a pris le temps de prier. Dans cette chapelle, il y a plusieurs tableau qui représente la vie de Saint François, les grandes étapes de Saint François. François avec le fameux loup, hein, ce loup qui dévore tout le monde. Et François, on lui demande d'intervenir parce que les gens ont peur. Le loup de Gupio. Alors, François va faire quelque chose. Frère loup. Frère loup. Et là, le loup va changer en agneau. Il va rester un loup. Mais on comprend qu'il vient prendre et dévorer parce que les gens ont peur. Mais si les gens s'en occupent et lui donnent à manger, eh bien, le loup va changer. Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est un fait concret? C'est peut-être les deux. Mais nous avons une leçon à retenir de cela. On nous dit que cette toile du Sacré-Cœur est l'authentique, la première qui a été faite et que l'on retrouve un peu partout dans les églises. Elle date du XVIIIe siècle environ. C'est très beau, c'est très simple. Ensuite, lorsqu'on regarde le cœur, on voit un Jésus tout à fait particulier, une grande statue de Jésus avec des couleurs vives. C'est très espagnol, à mon avis, comme représentation. C'est vif, ces couleurs du Christ. Et on a refait le plancher du cœur en forme de rondelles qui s'interposent, qui font même comme un chemin de marche dans le cœur et pour l'autel. Donc c'est quelque chose qui est en mouvement. Je pense que concrètement, on doit souvent regarder ses pieds pour ne pas trébucher. C'est un plancher de prudence.
À l'émission Les Carnets du Soir, je vous propose la suite de mes carnets souvenirs de Noël. Toujours dans ces souvenirs qui remontent à mon enfance et qui me place devant les fêtes de Noël quand j'étais petit, je continue de faire ce petit voyage avec vous. Un voyage qui me fait du bien parce que on se retrouve dans notre enfance, dans le milieu familial, dans la maison, dans cet endroit où on a grandi, où j'ai grandi. Maintenant, il y a une autre étape dans les souvenirs, ce sont les cadeaux. Et là, j'ai un souvenir très précis où je dois avoir, je suis peut-être un petit peu plus vieux, là j'ai peut-être 8-9 ans, où je suis, comme on dit, à l'étage, c'est-à-dire là où sont les chambres, et par une grille, parce que il fallait chauffer la maison, donc il y avait une fournaise dans la cave. Ensuite, la chaleur pouvait monter à partir de la cave et ça sortait par des grilles en fonte. Alors parfois, il faisait froid, vous savez, on allait se faire chauffer au-dessus de ces grilles. Mais il y en avait une grille qui était bien placée parce qu'on pouvait voir à travers la grille un endroit où maman préparait les cadeaux. Donc, je me rappelle de cet événement où je ne suis pas seul. Je suis certainement avec quelqu'un d'autre de ma famille et on scrute, on est curieux, on regarde. On ne voit pas vraiment les cadeaux. On sent les mouvements. On voit un petit peu les boîtes, mais on ne peut pas distinguer ce que c'est. Alors, on sent le mouvement d'emballer les cadeaux. Alors, maman emballait les cadeaux, probablement avec, peut-être les plus grandes. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'elle était seule. Mais c'était cette séquence où on emballait les cadeaux. Alors, dans notre tête, là, imaginez les enfants, on s'imaginait toutes sortes de choses. Hein. Qu'est-ce qu'on aurait? Quel cadeau on aurait? Est-ce que ce serait quelque chose avec laquelle on pourrait jouer? Ou, bien souvent, c'était des cadeaux qui étaient utilitaires, qui pourraient nous servir. Parce que quand on est une grande famille, à cette époque, on ne peut pas penser avoir nécessairement des patins, là, et des skis, et plein de choses comme ça. On avait souvent des vêtements. On pouvait avoir une paire de bas, on pouvait avoir un petit chandail, on pouvait avoir des mitaines. Alors on était loin de toutes ces montagnes de cadeaux qu'on peut voir aujourd'hui. C'était beaucoup plus simple, mais c'était beau, c'était bon. Alors on pensait dans nos petites têtes d'enfants à ce qu'on aurait. C'était emballé et c'était placé dans un endroit. C'était pas encore le temps de l'arbre de Noël, là. On n'est pas encore rendu là. Alors les cadeaux étaient placés, étaient emballés et ils restaient là. Et on n'y pensait pas trop, pas vraiment. Je n'y pensais pas plus que ça. Mais au moment où ça se faisait, l'emballage des cadeaux, là, il y avait une certaine curiosité. Et je me rappelle de ce souvenir où j'ai été témoin, j'ai vu par le grillage, eh bien, cette opération de préparer les cadeaux pour les enfants. Alors, quand on est une grande famille, eh bien, c'est du travail. Et maman faisait ça le soir. Évidemment, on était montés, nous, pour dormir, même si on ne dormait pas. On était montés. Et ma mère faisait ses opérations le soir pour, justement, que les choses ne soient pas vues.
Les enfants oubliés traînent dans les rues sans but et au hasard. Ils ont froid, ils ont faim, ils sont presque nus et leurs yeux sont remplis de brouillard. Comme une volée de pauvres moineaux, ils ont pour rêver le bord des ruisseaux, recroquevillés sous le vent d'hiver dans leur de l'ennemité. Les enfants oubliés n'ont pour seuls parents que les bruits des grands boulevards. Dans le creux de leurs mains, ils tendent aux passants des objets dérobés au bazar. Ils ont pour s'aimer d'un naïf amour la fragilité des mots de velours. Ils ont pour palais tout un dans les courants d'air des vastes cités. Les enfants oubliés traînent dans les rues tout comme de petits vieux. Ils ont froid, ils ont faim, ils sont presque nus, mais ce sont les enfants du bon Dieu. Oui, ce sont les enfants du bon Dieu.
C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.